יום טוב, il y a une mitzvah de simcha. Et cette mitzvah de simcha, elle se concrétise en mangeant de la viande et en buvant du vin. La viande étant pita, le jour de Yom Tov. Ça, c'est essentiellement ça. Ce korban, c'est ce qu'on appelle shlamim. Vous savez, dans les korbanot, il y a deux grandes catégories de korbanot. Il y a les korban, un korban qui s'appelle holocauste, si vous voulez, c'est-à-dire un korban qui est entièrement consumé sur le Beth Amig, sur le Mizbeach. Et puis, il y a d'autres korbanot qui sont mangés, dont la viande est mangée. Alors, certains, c'est viande mangée par les Kohanim, d'autres, la viande est mangée par les propriétaires du korban, sauf un tout petit peu de viande et des entrailles qui sont mises et qui sont grillées sur le Mizbeach. Et entre autres, dans ceux-là, dans ces derniers, il y a ce qu'on appelle la shlamim, qui est donc une viande qui est essentiellement mangée par ses propriétaires. Simplement, c'est comme si on recevait la viande de la haute table, ça veut dire comme si on mangeait à la table d'Hachem, qui nous donnait donc de la viande de korban, c'est-à-dire c'est nous mangeons un peu comme le Mizbeach mange, si vous voulez. Alors, étant donné que le Beth Amikdash est fermé la nuit, donc on peut pas apporter de korbanot, on peut pas approcher de korbanot la nuit, donc on peut pas manger cette viande la nuit. Donc la mitzvah de simcha qui est attachée, par exemple, enfin qui est attachée à Pessah, Shavuot, Sukkot, cette mitzvah-là, on ne la fait que deux jours. Parce que le soir, on peut pas faire des korbanot. Alors, quand je dis que ça doit être fait, la shrita doit être faite le jour, elle doit être faite le jour ou bien dans les heures qui précèdent au titre du jour en question. Il y a un chidouche qui est dû au chazonish. Le chazonish a dit que le soir de Pessah, le soir du Seder, il y a une mitzvah de simcha. Alors, qu'est-ce qu'on mange comme korban dont on a fait la shrita ou bien le soir ou bien juste avant? Ben, évidemment, c'est le korban de Pessah. Donc, d'après lui, la viande qu'on mange au titre de la simcha, le soir de Seder, c'est une viande qui a, en fait, c'est la viande de l'agneau pascal, du Korban Pessah, et ça veut dire que le Korban Pessah, il a une double casquette, si vous voulez. Le Korban Pessah est à la fois le Korban qu'on mange la nuit du 15, parce que c'est la mitzvah de manger du Korban Pessah. Mais cette même viande, elle nous sert aussi comme support pour accomplir la mitzvah de Simchat Yom Tov. Et la Gemara, elle dit dans Psachim, elle dit que les Arba Kosot, c'est le vin qui doit, c'est un vin prescrit, donc, c'est avec cette viande du Korban Pessah et les Arba Kotot, les quatre coupes de vin qu'on boit le soir du Seder, qu'on concrétise, qu'on donne un support matériel à une opération de simcha, qui est évidemment un problème spirituel. S'il s'agit de la simcha, ça ne consiste pas à sauter en l'air en disant « je suis joyeux » ou à porter un badge « je suis joyeux ». Mais ça consiste effectivement à être joyeux, à être dans une posture, dans une position et dans un état d'esprit plutôt de joie. Joie motivée par, voilà, par la fête qu'on est en train de vivre. Ça, c'est le Chazon Ish. Alors, là-dessus, en fait, ça circule au long du Chazon Ish. Le paradis d'Yitzhak le ramène au nom du Chazon Ish. En fait, en Amérique, Rabbi Yosef Ber Soloveitchik, il a enseigné indépendamment du Chazon Ish la même chose. Au point que je ne sais pas exactement pourquoi on dit que c'est le Chazon Ish, parce que j'ai regardé la référence, on a l'impression que c'est un Rashbam et un Tosfot qui ont l'air de dire la même chose que ce qu'on dit ici au nom du Chazon Ish. Alors, bon, j'ai peut-être pas compris vraiment pourquoi il fallait le Chazon Ish pour le dire alors que ça me semble explicite. Mais peu importe. En tout cas, il y a une mitzvah comme ça. Alors, maintenant, on va suivre le raisonnement de Parah d'Yitzhak. Le Parah d'Yitzhak fait remarquer que la simcha de cette nuit, la simcha de la nuit, quand la nuit, je vais dire simplement la nuit, c'est la nuit du 15, la nuit du Seder. La simcha de la nuit du Seder est en fait une simcha différente de la simcha des fêtes, qui elle est une simcha qui a lieu deux jours. Il y en a une à deux jours à Pessah, deux jours à Shavuot et deux jours à Sukkot. Mais c'est deux fois la mitzvah de simcha, simchat yom tov, et ce sont deux simachot, deux types de simcha différents. L'objet, le support, si vous voulez, de la simcha du jour, la simcha de Pessah, Shavuot, Sukkot. L'objet est à chaque fois, quelle que soit la fête, le même, en fait. C'est toujours les shlamim. Les shalmei, certains s'appellent même shalmei simcha. Des shlamim ad hoc, des shlamim qui sont faits pour être en joie, pour nous aider à être en joie. C'est tout le temps le même, parce que on peut dire pourquoi est-ce que c'est vraiment tout le temps le même? C'est parce que c'est le même support, et donc c'est le même type de joie qu'on recherche. La simcha de la nuit de Pessah, elle a bien entendu un autre support, un support qui n'est pas Shalmei Simcha, mais qui est le Korban Pessah. C'est-à-dire, puisque les supports sont différents, alors on peut très bien comprendre que la simcha spirituelle est aussi différente. Ça vient de cette différence de support. La viande n'est pas la même viande et elle n'est pas préparée de la même manière, elle n'est pas mangée de la même manière. Le Korban Pessah, il se mange d'une façon tout à fait particulière. Par exemple, on le mange comme Hillel. Comme Hillel, il en fait un sandwich, Pessah Matzah Umaror. Un sandwich avec viande, salade, si vous voulez, herbes amères, et matzot. Le shlamim, c'est tu manges de la viande, tu la manges comme tu veux. Tu veux manger de la viande simplement rôtie, tu as le droit. Le korban pessah, on n'a pas le droit de le manger autrement que grillé, à cœur vraiment, grillé complètement. Donc, support différent, ça entraîne sorte de smachot différentes. Il est clair que ça nous intéresse de savoir un peu quel genre de différentes de simcha on a. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la simcha de la nuit, par rapport au smachot de jour, c'est-à-dire de Pessah, Shavuot, Sukkot? Ok, donc ça c'est une question qu'on se propose d'éclairer un peu. Alors, on a déjà vu, mais bon, je vais le répéter, que le peuple juif, si on peut parler, ce qu'on appelle Knesset Israël, c'est le seul peuple qui a fait l'objet d'une gzéra, d'un décret, un décret d'exil, d'esclavage, avant même que le peuple existe. N'est-ce pas? L'esclavage et l'exil, il a frappé qui? Il a frappé des gens qui étaient des descendants de Yaakov. D'accord? C'est la famille de Yaakov qui est descendue en Égypte à l'époque de Yosef, qui s'est multipliée normalement au départ, puis ensuite il y a eu une explosion démographique, mais c'est toujours les descendants, c'est pas un peuple, c'est une famille étendue, si vous voulez, mais un certain, comme c'est tellement étendu, on peut penser très facilement que, bon, c'est des individus, c'est un agrégat d'individus. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que il y a là un embryon de peuple qui va naître dans des conditions où un peuple déjà constitué se défait. Eux, ils vont se faire, ce peuple va se construire dans une situation qui est une situation de destruction des peuples. D'accord? Exil, esclavage, c'est une façon de détruire un peuple. Et le peuple juif, en fait, il se construit dans ces circonstances-là. Donc, ces deux éléments-là. Alors, le premier élément, l'exil, l'esclavage qui frappe donc ces Bnei Israël en Égypte, c'est pas un élément extérieur, de ce fait, il est devenu constitutif quasiment du peuple juif, en fait. Le peuple juif, c'est le peuple qui est né en Égypte, qui est né esclave, qui est né exilé d'une terre où en tant que peuple, il n'a jamais existé puisqu'il n'a jamais été un peuple. Donc ce décret, en quelque sorte, qui frappe cet agrégat de personnes, ce décret-là, il dit quelque chose, il nous dit quelque chose de particulier, il nous parle bien clairement d'un esclavage très difficile à supporter, et d'une notion d'exil, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes des étrangers. Donc vous êtes esclave dans un pays étranger. Alors que ces gens, ils sont des, entre nous, soit dit, c'est des Égyptiens, non? Ils sont Égyptiens depuis très très longtemps. Ça fait au moins 210 ans. Au moment où ils sortent, qui sont égyptiens. C'était parti pour durer 400, bon, ça a été réduit, mais bon, ça fait déjà 210 ans, plusieurs générations qui sont égyptiens. C'est des, si on pouvait, ils sont pas encore à ce niveau-là, mais on aurait presque pu dire que ce sont des égyptiens de confession mosaïque, comme on dira beaucoup plus tard. Mais bon, ils sont pas vraiment de confession mosaïque puisqu'ils n'ont pas reçu la Torah. C'est des drôles de gens, quoi. Des gens qui sont complètement mélangés avec les Égyptiens au point que la Torah va dire que quand Hachem va prendre les Bnei Israël pour les faire sortir d'Égypte, il va prendre la kachat lo goy mi kerev goy. Il va prendre un peuple, donc il n'est pas vraiment un peuple, mais il va les prendre au sein d'un autre peuple. Ils sont mélangés. Il n'y a pas d'endroit, si vous voulez, où les esclaves hébreux se trouvent et où ne se trouvent pas d'Égyptiens. On voit dans tout le contexte, tout ce qui nous est rapporté, que les maisons des Hébreux esclaves et les maisons des maîtres égyptiens étaient côte à côte, étaient contigus souvent. Et avec le temps, il va y avoir des relations curieuses entre les uns et les autres. Curieuses. Pas vraiment de relations pendant longtemps, mais tout à la fin, il y aura même des relations. Mais ce qu'on entend là, cette espèce de voix qui nous parle de l'esclavage, etc. Elle a cette voix-là, elle a ce qu'on appelle un bat kol. Un bat kol, c'est une forme d'écho. C'est-à-dire, c'est une voix, mais un peu plus floue, un peu moins forte, etc. Et cette bat kol, en fait. C'est que ce qu'il y a aussi dans cet exil, dans cet esclavage on va dire un peuple, mais il n'est pas encore un peuple, qui est étranger sur une terre, donc, où il sera étranger. C'est qu'il y a une notion d'exil et d'esclavage qui est décrite dans les versets de Parashat Bechukotai ou de la Parashat ou dans le Sefer Dvarim de la Parashat de Kitavo, qui parle d'un chiboud, d'un esclavage d'Ibn Israël, un esclavage que Chachamim appelle, Rachid utilise cette expression, Bachem ou Mikem, c'est-à-dire un esclavage d'Ibn Israël où l'ennemi est un ennemi intérieur et pas un ennemi extérieur. L'esclavage standard. On parle d'Ibn Israël esclave en Égypte. L'ennemi, c'est les Égyptiens, ils sont à l'extérieur. Mais il y a un esclavage intérieur, ça veut dire, qui est causé par l'Ibn Israël eux-mêmes. Une partie d'entre eux deviennent ceux qui vont réduire les autres en esclaves, en temps, les réduire en esclavage. Il y a cet esclavage qui s'appelle Bachem en vous, Mikem venant de vous, comme dit Rashi. En d'autres termes, l'esclavage est un esclavage qui a deux formes distinctes. Une avec un ennemi extérieur et l'autre avec un ennemi intérieur. Alors, on va revenir sur ces points. On sait bien que l'esclavage égyptien n'est pas contenu dans les quatre esclavages. D'accord? Il y a quatre exils avec une forme d'esclavage, qui est Babel, la Babylonie, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains. Le Romain étant celui dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Il a commencé par Rome, mais qui est en fait un esclave de Édom. C'est pas Édom, c'est Esav. Et ça prend, c'est un esclavage qui prend des formes différentes. Bon, ça peut être à un moment donné Rome, mais ensuite éventuellement peut-être la chrétienté. D'autres disent éventuellement aussi l'islam, enfin les pays, etc. Et peut-être l'URSS en son temps et l'Amérique aujourd'hui, ou je sais pas. L'exil esclavage égyptien ne fait pas partie de ces quatre-là. Mais il est l'archétype, en fait, de tous les esclavages. L'esclavage égyptien, c'est l'archétype des esclavages. Ça veut dire que tous les esclavages ont en quelque sorte leur source dans l'esclavage égyptien. L'esclavage égyptien contient les racines de tous les quatre, enfin, des quatre exils et des quatre esclavages. Mais l'esclavage égyptien est un esclavage avec un ennemi extérieur. C'est un ennemi qui ne dit pas toujours son nom. L'ennemi de l'esclavage de Yavan, l'esclavage grec. Mais c'était une guerre civile. On parle tout le temps des Grecs. Il y avait probablement quelques Syro-Grecs là-bas. Bien vraisemblablement une armée. Mais c'était une guerre entre Bnei Israël, entre la famille, une famille, la famille de ceux qu'on va appeler les Hashmonaïm, et le reste, tout l'establishment, tout le reste était quasiment acquis aux idées grecques. C'était ça. Donc c'était vraiment un exil, un esclavage intérieur. Mais il dit pas toujours très clairement son nom. Mais l'accent toujours sur les Grecs, les Grecs, les Grecs, mais c'était qui les Grecs? Ça n'avait pas grand-chose à voir avec la Grèce. Parce qu'en vérité, c'était les Syriens, acquis aux idées grecques, les héritiers d'Alexandre. Et bien Israël qui était acquis à ces idées-là. Problème, c'est qu'on a cette source-là avec un ennemi extérieur. L'Égypte joue le rôle de source de tous les esclavages et exils avec un ennemi extérieur. J'ai dit que il y a un esclavage et un exil avec un ennemi intérieur. Et la question qu'on peut poser, c'est, mais quelle est la source de cet esclavage avec un ennemi intérieur? C'est quoi? Ça peut pas être l'Égypte. L'Égypte, c'est un ennemi extérieur. Cet exil, l'esclavage, que Rashi appelle Mikem Bachem, dont encore une fois la Torah nous parle. Où est-ce d'où il arrive celui-là? Quel est son modèle? Alors à cette question-là, dit Rabbi Yitzhak Koutner, pour répondre à cette question-là, on est obligé de demander l'aide, en quelque sorte, de ce qu'on appelle les Chachmei Ha'emet, si vous voulez un peu les kabbalistes, quoi. Eux, les kabbalistes, ils ont une théorie à ce sujet-là. Et personne d'autre n'a de théorie à ce sujet. Donc on est intéressé à savoir ce qu'ils disent. C'est bien sûr aussi de la Torah. Eux, ils disent que la source de cet exil intérieur vient de l'existence de ce qu'on appelle Erev Rav. Alors, Erev Rav, c'est une paracha pour soi, une paracha très difficile à comprendre. Alors, en deux mots, voilà ce dont il s'agit. Quand les Bnei Israël sortent d'Égypte, il y a un groupe de gens que la Torah appelle Erev Rav. Je verrai tout de suite sur le sens de ce mot. Qui se joignent aux Bnei Israël qui sortent d'Égypte. Pourquoi ils se joignent? Pourquoi on les a acceptés? Dans quelle mesure ils sont vraiment joints? C'est une question dont on va parler. Ce groupe de gens se joignent. Et la première occurrence où on voit ces gens-là à l'œuvre, si vous voulez, où on parle d'eux, c'est le veau d'or. Comment on en parle? Parce que mon cher Abénou, après que qu'Hachem ait parlé au Bnei Israël, les Aseret Adibrot, mon cher Abénou était invité à monter sur le Sinaï et à y rester 40 jours et 40 nuits pour apprendre la Torah qu'il va enseigner par la suite au Bnei Israël et pour recevoir le Shtei Luchot Abrit, les deux tables de la loi, comme on dit. Ce sont deux tables, deux tables rectangulaires, pas du tout comme on les dessine, mais deux tables rectangulaires, à peu près 60 cm, probablement carré, côté 60 cm, enfin, six tfachim, donc entre 48 et 60 cm. Ces deux tables sont les fameuses tables qu'Hachem a produites et sur lesquelles il a écrit les Aseret Adibrot. Il les a écrites de façon spéciale, c'est une gravure de part en part, lisible des deux côtés, etc. Pendant 40 jours, Moshe Rabbeinu est sur le Sinaï. Pendant 40 jours, il apprend la Torah. Et ça ne marche pas. Il n'arrive pas à apprendre la Torah. Il ne se souvient pas, ça ne marche pas, il n'apprend pas. Il n'arrive pas à apprendre, ce qui est assez logique dans la mesure où la Torah, c'est quelque chose d'infini. Et par conséquent, un homme fini, il ne peut pas apprendre la Torah. En tout cas, la Torah directement d'Hachem. Mais le 40e jour, Hachem lui donne la Torah. T'as assez travaillé, je te la donne maintenant. Hachem lui a mis la Torah en lui, donc voilà, c'est la Torah de Moshe. Et au moment où Moshe va recevoir les deux louchot, Hachem lui dit, stop, l'air raide, descend, c'est-à-dire tu peux plus rester ici, tu peux pas même continuer une seconde, tu dois descendre, parce que qui shichet amcha, parce que ton peuple s'est fourvoyé. Alors Moshe Rabbeinu dit à Hachem, pourquoi tu l'appelles mon peuple? C'est ton peuple à toi, c'est pas le mien. Hachem lui dit, non, pas du tout, c'est le tien. Ce sont des gens que toi, Moshe, tu as accepté. Et dans Rashi, c'est marqué, tu as accepté sans me demander mon avis. Mais dans le Midrash, c'est écrit autrement. Dans le Midrash, il y a tout un dialogue entre Moshe et HaKadosh Baruch Hu. Hachem dit à Moshe, ne les prends pas. Ne les accepte pas. Et Moshe dit, on doit accepter les gens, on doit accepter la conversion des gens qui sont sincères. Hachem dit, non, non, ne les prends pas. Et Moshe insiste, et Hachem dit, bon, on fera comme tu veux. Donc ces gens-là ont été acceptés, a priori, d'après le Midrash, convertis par Moshe Rabbeinu, ce qu'était la conversion à ce moment-là. On sait un peu ce que c'est parce que on est à ce moment-là, juste avant une vraie conversion de tout le peuple. Tout le peuple s'est converti avant de recevoir la Torah. Tous, absolument tout le monde. Donc, bon, on peut imaginer qu'on leur a appliqué une procédure qui ressemble à la procédure ou qui est la procédure qui va être appliquée un peu plus tard à tout le monde. Bon, c'est pas tout à fait clair comment ça marche, mais bon, c'est une forme de conversion. Et donc, ces gens-là sont présentés comme si c'était eux qui ont fait le veau d'or. Alors, c'est pas tout à fait comme ça. Ce ne sont pas vraiment eux qui ont fait le veau d'or seulement. Mais ce qu'il faut entendre ici, c'est que il s'est passé quelque chose, et ça, là, qui est important, c'est, et c'est ça la source de ce fameux exil. Avec un exil intérieur, exil avec un ennemi intérieur, c'est que, dit Rabbi Yitzhak Huttner, c'est que c'est la présence dans le clan Israël de ce groupe de gens qu'on appelle les Révraves qui a influencé des Bnei Israël et qui les a incités à faire eux aussi, à participer eux aussi au Vaudor. Donc c'est pas seulement les gens de, les descendants ou les, ou eux-mêmes, les gens du Révrav qui ont fait le Vaudor. Mais ce qui est grave, si vous voulez, c'est que cette présence à côté, en même temps que le clan Israël, ça c'est une forme de réalité, en fait, qui a entraîné que, y compris dans le camp des Bnei Israël eux-mêmes, il y a une réalité de gens qui se révoltent et qui asservissent les autres. Donc, cette domination des uns, des Bnei Israël, sur les autres Bnei Israël, la réduction en esclavage, c'est ça le modèle de cet exil qui s'appelle Bachem et Mikem en vous. C'est-à-dire l'existence du mélange. C'est ça le côté négatif, il est là, dans le fait qu'il y a mélange. C'est-à-dire que ce sont eux, les gens du Erevrav, qui ont produit ces forces de d'incitation à la révolte, etc., contre Hachem. Et qui ont entraîné une cassure au niveau de l'unité du clan d'Israël, puisque les uns se sont battus et ont réduit les autres en esclavage. Donc il y a une cassure dans l'unité du peuple. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Erev Rav, qui veut dire grand mélange? Alors là-dessus, il y a une grande machloquette entre les Mefarshim. Pratiquement personne ne parle du mélange entre eux et les Bnei Israël. C'est un mélange entre eux. Il y avait des Égyptiens, il y avait probablement des Soudanais, des uns les autres, un mélange. Et quant au mot « rav », qui veut dire beaucoup, grand, alors ou bien il s'applique au mélange comme c'était très mélangé, mais d'autres disent que c'est parce que ces gens-là étaient très nombreux. Erev, rav, c'était très 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 nombreux. On reviendra sur cette histoire du nombre de gens qui composent. Ce nombre de gens ne figure nulle part dans la Torah. Nulle part dans la Torah, on nous dit combien ils étaient. Éventuellement, d'après ceux qui disent, comme je viens de vous le dire, qui sont à Babanel ou d'autres, ça veut dire qu'ils étaient très nombreux. C'est combien très nombreux? Alors, on va en parler. Donc, la source de cette deuxième forme d'exil et d'esclavage des Bnei Israël avec un ennemi intérieur, elle vient de la réalité qu'il y a eu au moment de la sortie d'Égypte, il y a eu ce ralliement d'Égyptiens, je vais dire Égyptiens, mais en fait ça veut dire Égyptiens et toutes sortes de gens, qui se sont et qui s'y sont joints. Et peut-être d'après le Midrash même, avec une démarche, une forme de conversion, de je sais pas quoi, pour qu'au moins ils soient sur le même plan que les autres. Et après, probablement qu'ils ont dû aussi faire la conversion que tout le monde a faite. Tous les descendants de la famille d'Yakov ont fait également. Ben, eux, il n'y a pas de raison qu'ils ne la fassent pas non plus, qu'ils ne la fassent pas aussi bien que les descendants de Yakov, parce que c'est une conversion qui a pour but de recevoir la Torah. Et peut-être la première conversion qui aurait été la leur, c'est d'être éventuellement considérés comme les autres. Moshe Rabbeinu voulait peut-être les considérer comme les autres, ce qui n'a évidemment pas marché. Alors, c'est un énorme chidouche. Bon, cette idée d'un deuxième exil qui aurait sa source dans la réalité de la fabrication de ce peuple avec deux composantes, ce qu'on appelle Erev Rav et ce qu'on appelle Ebnei Israël, qui forment cette entité-là, contre nature, semble-t-il. Et ça veut donc dire qu'au moment de la Géoula, au moment de la libération, il se passe quelque chose qui va donner une possibilité d'un exil d'un genre encore, d'un genre inédit, quoi, en fait. Inouï. Un genre tout à fait différent de celui qui est la conséquence de ce que Abrit ben Aftarim, Hachem avait, vous savez, quand au moment de l'alliance entre les morceaux, entre Akadosh Baruch Hu et Abraham Avinu, à un moment donné, Abraham Avinu a été, enfin, il a subi une espèce de torpeur qui lui est tombée dessus. Donc, situation tout à fait effrayante. Et Hachem lui a dit à ce moment-là, Geri Yezaracha Beretz Lo Lahem, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne leur appartient pas, et on va les faire souffrir, etc. Mais après, ils vont sortir avec un grand butin. Sur ce que c'est que ce butin, il y a aussi à discuter. Donc, dire que c'est à ce moment-là, au moment de la Géoula, qu'est née, en quelque sorte, la possibilité de cet exil terrible, puisque c'est un exil peut-être encore pire que tous les autres exils, dans la mesure où c'est intérieur, quoi. C'est un énorme prix de douche et ça pose un très grand problème. Les Chachamim considèrent que la Geoula de Mitzrayim, la libération de l'Égypte, c'est, disons, on va le dire comme ça, c'est une espèce d'avant-goût de la libération finale. La Geoula Atida, celle qu'on attend, d'accord ? Il y a les psukim qui disent que Hachem se manifestera de la même manière dans la Géoula finale qu'il s'est manifesté dans la Géoula de Mitzrayim. Mais si la Géoula de Mitzrayim, elle porte en elle une espèce de verre, une espèce de destruction du klal par esclavage et réduction, enfin exil, esclavage, intérieur. Alors, et ça, c'est ça le modèle de la Géoula finale. C'est pas que c'est un modèle au sens habituel du terme. C'est, il y a la Géoula finale telle qu'elle doit être, et Hachem nous a donné un avant-goût. Ça s'appelle Zecher, mais le Zecher n'est pas toujours dans le même sens. C'est un Zecher, un souvenir de quelque chose qui n'a pas encore existé, mais qui est programmé, si vous voulez. Et on nous en donne un avant-goût, comme le Shabbat qui est mérine dans la Maba. Bien ici, la Geoula de Mitzrayim est mérine la Geoula. Mais on est en train de dire des choses terribles sur la Geoula d'Égypte, dont on peut pas, qui ne peut pas se transposer pour la Geoula finale. Parce que dans la Geoula finale, c'est la fin. Il n'y a pas. Elle ne va pas être porteuse de quelque chose d'autre. La Geoula finale est la fin. Alors comment est-ce que la Geoula de Pessah, la Geoula de la sortie d'Égypte, comment est-ce qu'elle peut être en rapport avec la Geoula finale alors qu'elle porte en elle cette chose absolument terrible? Alors, pour comprendre comment c'est possible, il faut regarder dans la Gemara dans Brachot, la Gemara dit que le sauvetage, le processus de sauvetage de l'Égypte, du galout dans lequel on était en Égypte, s'est déroulé en réalité en deux temps. Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu, voilà, à minuit, moi, dit Hachem, je passerai par l'Égypte, en fait, et là, à ce moment-là, tous les premiers-nés égyptiens vont mourir. Et Paro, à ce moment-là, il mettra les pouces. Paro dira maintenant, vous pouvez partir. Paro, qui pendant 9 plaies dit à chaque fois non, non, non. D'abord il dit oui, mais après il ne tient pas sa parole, etc. Il dit non. Là, maintenant, il va dire oui. Alors, effectivement, c'est ce qui se passe. Paro cherche Moshe pour lui dire « Je suis d'accord, vous pouvez partir. » Alors, comme vous savez, certainement, à la dernière rencontre entre Paro et Moshe, Paro a dit à Moshe « Surtout, ne te représente plus jamais devant moi. Si jamais tu te présentes devant moi, je te tuerai. » C'est une drôle de phrase. C'est une très drôle de phrase parce que vous imaginez bien que la première fois que Moshe Rabbeinu est allé au palais de Paro et qu'il est venu en lui disant « Je parle au nom d'Hachem, let my people go », Paro a dit « Hachem, je connais pas et je ne laisserai pas partir les Bnei Israël. » Point barre. Et à ce moment-là, Moshe lui a dit « Mais si tu ne laisses pas partir, mon peuple qui est mon premier-né, dit Hachem, je tuerai tes premiers-nés. » Donc ça lui a été dit tout de suite à Paro. Mais bon, c'était une phrase qu'il a prise comme une phrase en l'air. Et bon, il n'a pas cédé. Mais bien entendu, à ce moment-là, quand Moshe s'est présenté, Paro a essayé de le tuer. C'est évident que quand il y a un excité qui vient parler au roi d'Égypte et qui vient lui dire « Je vais te donner un conseil au nom de mon Dieu, quoi, quelque part », Paro, il va pas le laisser parler, ce bonhomme. Il a essayé de le tuer. Mais ça n'a pas marché. Il a essayé plusieurs fois. Donc, il sait très bien qu'il n'arrivera pas à tuer Moshe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu, après la 10e plaie, à la 9e plaie, si jamais tu te représentes encore une fois, je te tue. Cause toujours. Je veux dire, c'est quoi ça? En tout cas, il lui a dit, je veux plus te voir. Alors, Moshe lui a dit, t'as d'accord, c'est d'accord. Moi, je viendrai plus te voir. On verra plus. Et donc, quand Paro a commencé à chercher Moshe pour lui dire, Moshe s'est caché. Bon, finalement, il a accepté de se montrer. Alors, je ne sais pas très bien si Moshe Rabbeinu lui-même s'est montré ou si Moshe a envoyé un émissaire pour discuter avec Paro. Je ne sais pas. Peu importe, ça ne change rien. Mais disons que Moshe a accepté, il lui a parlé. Donc, il a entendu Paro lui dire, partez, moi je suis d'accord. Alors, je crois que nous avons déjà dit que Moshe, à ce moment-là, il a dit à Paro, non, on va pas partir avant que tu nous donnes un écrit, un document par lequel tu déclares que les Bnei Israël ne sont plus tes esclaves. Je veux un document pareil. Ce document-là, c'est un document que si jamais vous avez acheté un esclave quelque part et puis que vous voulez le libérer, etc., vous devez lui donner un guet. C'est comme un guet de divorce entre un homme et une femme. Déclaration de ouais, « tu es libre, tu n'es plus mon esclave, tu es libre ». Certains disent que c'est ça que la Haggadah dit. Dans la Haggadah, on dit si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte à ce moment-là, nous serions encore, nous et nos enfants et nos petits-enfants, esclaves de Paro en Égypte. C'est une drôle de phrase dans la Haggadah. Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé dans le Nil ou ailleurs depuis. Et bien sûr, entre-temps, il peut y avoir, et il y a eu, révolution, il y a eu tremblement de terre, changement de dynastie, guerre, décolonisation, tout ce que vous voulez, qui fait que les Bnei Israël auraient très bien pu sortir et se libérer de Paro de nombreuses reprises. Donc, ça veut dire que si Paro ne nous avait pas fait sortir à ce moment-là, on serait encore aujourd'hui esclaves. C'est que, en réalité, si quelque chose nous avait permis de nous libérer, mais on serait libéré, on se serait enfui. Mais formellement, on appartiendrait encore à Paro. Et si Paro avait un descendant, eh bien, ça se transmet, les esclaves. Donc, il y aurait peut-être un fellah, je ne sais pas, égyptien, qui serait en fait le propriétaire de tous les juifs qui sont esclaves ou descendants d'esclaves. Alors, quoi, ça nous dérange, et il pourrait rien nous faire. Oui, mais pour être Eved Hashem, on doit être complètement libre, totalement libre. Donc, être lié à personne. Et donc, même formellement, un tel lien, s'il existait, nous dérangerait dans notre volonté d'être Eved Hashem. Donc, Moshe a exigé ce document, qu'évidemment, Paro n'a pas voulu donner. Mais à ce moment-là, Chazal disent, Moshe lui a dit, mais nous, on n'est pas pressé, hein. Et évidemment, comme ça mourait de tous les côtés en Égypte, Paro a fini par dire, bon, je signe. Mais partez maintenant. Vous pouvez partir. Alors Moshe a dit, mais non, on ne va pas partir comme des voleurs en pleine nuit. Ça non plus, je ne comprends pas très bien. Parce que comme vous savez, c'était la nuit à ce moment-là, mais on y voyait comme en plein jour. Pourquoi on y voyait comme en plein jour? Parce que, vous vous souvenez, quand Abraham a fait la guerre, parce qu'il y avait eu la guerre entre les quatre rois et les cinq rois, et que son neveu et son beau-frère, donc c'est la même personne, Lot, étaient prisonniers. Il était accusé d'être lui, celui qui a fomenté la révolte des uns contre les autres. Et les ennemis d'Abraham, à ce moment-là, à un moment donné, ils ont pensé qu'ils avaient capturé Abraham. Après, ils ont compris que c'était Lot qui ressemblait à Abraham. Et ils se sont dit, on va publier, faire savoir que Lot est prisonnier. Abraham va sûrement venir essayer de faire la guerre pour essayer de le délivrer. Et à ce moment-là, on va pouvoir tuer Abraham parce que on est tous ensemble là-dessus contre Abraham. Les cinq rois et les quatre rois, ils sont d'accord de faire alliance pour tuer Abraham. Tout le monde est d'accord. Et donc, ils ont pensé que Abraham n'en est pas resté les bras ballants, qu'effectivement, là-dessus, ils avaient raison. Et Abraham est venu faire la guerre pour délivrer Lot. Et il a fait la guerre, il a gagné la guerre. Et il a délivré Lot. Mais pour faire la guerre, à cette époque-là, on ne faisait pas la guerre la nuit. Tout le monde n'avait pas de générateur, etc. Donc, ils ne pouvaient pas vraiment faire la guerre la nuit. Manque de matériel, etc. Donc, on ne faisait pas la guerre la nuit. Comme au Moyen-Âge, on ne faisait pas la guerre ni la nuit, on ne faisait pas la guerre le dimanche, on ne faisait pas la guerre. La guerre avait des règles très précises. Mais Abraham Avinu a dit, c'est pas parce que l'habitude, c'est qu'on ne fait pas la guerre la nuit que Lot doit souffrir plus longtemps. Donc, lui, il a fait la guerre pendant la nuit, mais en quelque sorte, il a transformé la nuit, en fait, c'est la première moitié de la nuit, en jour. Il s'est conduit comme si c'était jour. Il est allé faire la guerre pour éviter à Lot de souffrir plus longtemps. Alors, on a un cas particulier où Hachem a dit, je prends modèle sur Abraham. Et il a dit à Abraham, toi, tu as changé la première nuit, première moitié de la nuit en jour pour délivrer Lot. Moi, pour tes descendants, je changerai la deuxième moitié de cette nuit. Il faut savoir que cette nuit-là, c'était la nuit du 15 Nissan. Et c'est ce qui s'est passé. À partir de minuit, en Égypte, on y voyait comme en plein jour. Et donc, quand Moshe dit, on va pas partir comme des voleurs en plein jour, en pleine nuit, pardon, c'est pas tellement vrai. Mais peut-être qu'il voulait dire, on va pas partir dans ce qui est normalement la nuit, ou peut-être que c'était jour seulement pour les Bnei Israël, et que pour les Égyptiens c'était la nuit, j'en sais rien. En tout cas, Moshe voulait pas partir. Il est parti qu'au matin. Et par conséquent, avec l'intervention de Moshe sur ce plan-là, il y a eu une séparation. La Géoula a eu lieu à minuit, mais la Yetzia n'a eu lieu que 2 jours. Donc, on a dissocié, Moshe a dissocié la Géoula, la libération des Bnei Israël, de la Yetzia. Et ça a eu comme conséquence, ou ça a permis la chose suivante. La Géoula elle-même, c'est-à-dire être libéré de l'Égypte, ça ne concernait que les Juifs, en fait, que les Hébreux, ce qu'on appelle Shishim Rivo, les 600 000. 600 000, c'est le chiffre des hommes dans une certaine tranche d'âge. Il y avait beaucoup plus de monde que ça, mais on appelle ça toujours 600 000. Shishim Rivo, 60 myriades. En hébreu, il n'y a pas de chiffre au-delà de 1 000. Parce que Revava, ça veut dire rave, beaucoup de rave. Beaucoup, beaucoup. Alors on sait, beaucoup, beaucoup, c'est 10 000, mais il n'y a pas de chiffre. On peut pas, on peut additionner des 1 000 et des 1 000 et des 1 000, mais il n'y a pas de nom concernant un chiffre au-delà de 1 000. Il y a Elef qui veut dire 1 000, après c'est fini, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de millions, de milliards ou de billards, ou etc. Alors, les 600 000, donc ça veut dire les Bnei Israël, eux ont été libérés à Hatzot, officiellement, c'est la Géoula, à ce moment-là. Mais la Yetzia, le fait de sortir concrètement d'Égypte, n'a eu lieu que une nuit plus tard, enfin une moitié de nuit plus tard. Et dans la Yetzia, il n'y avait pas seulement les 600 000. Dans la sortie, il y a les 600 000 et puis il y a le Erev Rav. Donc, c'est ce dont nous parlions. C'est le fait que l'apparition sur la scène de l'histoire à ce moment-là, de ce Erev Rav, a lieu au moment de la Yetzia. Elle n'était pas là au moment de la Géoula. Au moment de la Yetzia, on a apparition de cette nouvelle entité qui s'appelle Erev.
Excusez-moi, ici, c'est quoi? La
La sortie.
traduction,
La
sortie.
sortie.
Et Géoula, c'est libération.
Non, la Géoula, c'est la libération.
C'est ça, ouais. Merci.
Donc, il y a une Géoula. Et donc, pour la question de savoir en quoi la sortie d'Égypte est un modèle pour la fin, la Géoula d'Égypte est un modèle pour la Géoula finale. Parce que dans la Géoula finale, il n'y a pas de Yetzia, on ne sort pas ailleurs, on ne va pas ailleurs, on ne va pas aller dans un autre monde. La Géoula finale, c'est un nouvel état du monde, mais ce n'est pas un aller ailleurs. Il n'y a pas de Yetzia, vraiment. Il y a seulement la Géoula. Et donc là, la Géoula, elle est parfaite. La Géoula, il n'y a pas de Révrave dedans. Donc, en vérité, ce moment au milieu de la nuit du 15, c'est le moment où le clan Israël était vraiment dans sa pureté, dans son entièreté, dans son unité, etc. Mais dès qu'il s'est agi de sortir, il a perdu ça. À cause de ce que le Erevav s'est joint à eux. Donc, si on veut revenir à la question initiale, de la même manière que le support de la simcha, de la joie de la nuit n'est pas le même support que le support de la joie des jours, de Pessah, Shavuot, Sukkot, de la même manière, la simcha n'est pas la même. Et cette simcha-là, en fait, qui est liée à la Geoula, en fait, cette simcha, elle n'a rien à voir avec la simcha des autres fêtes, parce que c'est dans cette simcha-là, il n'y a que le clan Israël. Tout ce qui va se passer après, si vous voulez, Pessah comme Chag HaMatzot, ou Shavuot, ou Sukkot, etc., tout ça, c'est en quelque sorte, comment est-ce qu'il faut dire ça, parasité par la présence du Erev Rav. Donc, la simcha, dans les autres cas, c'est une grande simcha, mais elle est un peu paralysée et parasitée par la présence du Erev Rav. Ce que ça commémore, c'est quelque chose qui s'est passé avec la présence parmi les Bnei Israël du Erev Rav. Par contre, la simcha de la nuit de Pessah, elle est tout à fait spéciale, parce que c'est une simcha où il n'y a que le clan Israël. Il n'y a pas de mélange de Erev Rav. Il n'y a que ceux qui sont véritablement, ceux qui ont véritablement adhéré, en quelque sorte, aux valeurs de la Torah. Les Erev Rav, on ne sait pas très bien ce qu'il en était. Moshe Rabbeinu a pensé qu'ils étaient sincères, mais Hachem qui savait ce qu'il en était, il savait ce qu'ils allaient faire par la suite. Alors, est-ce que ça implique qu'ils étaient déjà, il ne fallait pas les prendre? Ou est-ce que le fait qu'Hachem savait qu'ils n'allaient pas tenir la distance? On peut imaginer, comme ça arrive des fois, que des gens qui se convertissent, ou bien des gens qui font tchouva d'ailleurs, ils font tchouva ou ils se convertissent, ils sont absolument sincères, mais ils ne tiennent pas la distance. Il y a des difficultés, etc. Et devant les difficultés, ben, ils reculent. Et ils annulent, en quelque sorte, la décision qu'ils avaient prise. Alors, il y a bien les Bnei Israël qui reculent aussi, mais eux, ils n'ont pas... Enfin, chez eux, on ne se pose pas la question, ils n'avaient pas le choix, quoi. Ils sont nés juifs et ils ne peuvent rien faire d'autre. Mais ceux qui auraient... qui n'ont pas été élevés dans la Torah ou qui n'étaient pas du tout dans la Torah, et qui ont fait un choix... Alors, quelque part, c'est comme s'ils contestaient leur choix. Les autres, ils font pas les choses comme il faut, c'est gravissime, mais peut-être même plus grave, mais bon, c'est pas un problème de choix. Ils n'ont pas vraiment le choix. Donc voilà ce qu'il en est de cette différence de Simcha avec le rôle fondamental du Erev Rav. Mais je vous ai dit, ce Erev Rav, là, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut en penser. C'est-à-dire, il y a beaucoup de questions qui se posent. Je vous ai dit, la première occurrence, c'est dans cette histoire du veau d'or. Or, dans l'histoire du veau d'or, bien sûr, ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais quelque part, il y a avec le... Bon, ici, c'est justement des choses, des pistes pour la réflexion un peu. Il y a un problème avec les gens du Vaudor, avec les, pardon, avec le Erev Rav, un problème qui est lié un peu aussi au temps, à la notion de temps. Regardez, on a dit que c'est Moshe qui les a acceptés. Hachem dit, moi j'étais pas d'accord, je voulais pas, mais on a fait ce que tu voulais. Voilà où ça nous a menés. Moshe Rabbeinu les a acceptés, mais en fait, il leur a donné une possibilité de se manifester. À Hatzot, la Géoula est faite, les Bnei Israël sont Géoulim, ils sont libérés, point bas. Et maintenant, on va sortir, et on sort tout de suite. Qui est-ce qui a proposé de ne pas sortir tout de suite? C'est Moshe. Pour de bonnes raisons. Il dit non, on va pas sortir comme des voleurs. Ok, très bien. C'est quoi le problème, on ne va pas sortir comme des voleurs? C'est, Moshe Rabbeinu voulait que tout le monde voit bien clairement que les Bnei Israël sortent d'Égypte. En français, ça s'appelle « Moshe Rabbeinu a voulu donner de la publicité à la sortie d'Égypte. » Donner de la publicité, ça peut être fondamental, c'est peut-être très bien. C'est très bien que tout le monde sache que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, mais est-ce que, pour autant, est-ce qu'il faut prolonger le séjour en Égypte? C'est pas un lieu fréquentable, l'Égypte. C'est un lieu d'idolâtrie. C'est un lieu où les mœurs ne sont pas convenables, etc. À cette époque-là, il faut en partir le plus vite possible. Si on reste même dans l'optique de ça va permettre de montrer à tout le monde plus clairement, etc. Mais en même temps, ça a donné du temps pour que les Révraves se joignent au Bnei Israël. Ce qu'ils n'auraient pas pu faire si on était sortis tout de suite. Il n'y a pas eu le temps de s'organiser, de se joindre. Il n'y avait pas de jonction possible. C'est la Géoula qui continue. Et donc, d'une certaine manière, mon cher Rabbeinu, avec cette intention certainement très louable, d'accord, il a permis au Erev Rav de se joindre au Bnei Israël. C'est-à-dire, il a donné du temps. Et on sait très bien qu'à Pessah, le problème, c'est le temps. Je sais pas, qu'est-ce que c'est la différence entre le Hametz et la Matzah? C'est que dans la Matzah, il n'y a pas de temps. Et le chametz, c'est du temps. Le chametz, c'est la même chose que la matzah, la farine, de l'eau et du temps. On a laissé la pâte, on l'a laissée libre, on lui a donné du temps, on ne l'a pas travaillé, et bien là, le temps de gonfler. Pas obligé de mettre du levain ou de la levure, etc. Bon, il suffit de laisser le temps faire son œuvre. D'accord, disons 18 minutes ou peu importe, hein. Certains laps de temps, au bout d'un certain laps de temps, c'est devenu Hametz. C'est ça le problème. Et c'est quoi le problème du Hametz? C'est qu'effectivement, pendant un laps de temps où on ne travaille pas à la pâte, il peut se passer beaucoup de choses. Plein de choses peuvent se passer à ce moment-là. Des choses qui peuvent. Pourquoi est-ce que la terre a été punie parce que au lieu de produire un arbre fruit, elle a produit un arbre fruitier. Elle devait produire un arbre fruit, c'est-à-dire un arbre dont le bois, le tronc, avait le même goût que le fruit. Elle a produit un arbre fruitier. La différence entre un arbre fruit et un arbre fruitier, c'est du temps. Un arbre fruitier, il faut attendre que ça pousse. Mais pendant ce temps-là, il peut y avoir toutes sortes d'insectes, de bestioles qui viennent bouffer le fruit, etc., ou l'abîmer, ou le tacher, etc. Il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir trop de chaleur, toutes sortes de choses. Le temps, ce temps-là qui est un temps perdu, ce qu'on appelle temps perdu, temps pendant lequel on n'a rien fait. Le temps, ça peut être très bien quand il faut du temps, quand on fait quelque chose de ce temps, quand ce temps est là pour obtenir un certain résultat. Il y a des choses où on a besoin de temps. Il faut bien que certaines choses doivent évoluer pour qu'on puisse voir comment elles évoluent. Qu'on va faire certaines analyses, alors on a besoin de temps, d'observation, etc. Bon, ça c'est un temps positif. Mais un temps où on a abandonné les choses à elles-mêmes, c'est un temps négatif. Et mon cher Avinu, dans l'entretemps ici, entre la Geoula et la Yetzia, il y a une espèce de temps vide. Dans ce temps vide, les Révraves s'est engouffré en quelque sorte. Et ils ont réussi à faire croire à Moshe que voilà, ils étaient suffisamment sincères, ou bien ils étaient sincères, mais ils ne tenaient pas la distance, et Hachem lui a dit, ne les prends pas parce qu'ils ne tiennent pas la distance. Donc c'est quelque chose de particulier avec ces Révraves. D'autre part, je vous ai dit que certains disent que dans Erev Rav, le mot Rav veut dire qu'ils sont très nombreux. Et ça fait référence à ce midrash que je vous ai, enfin cette mechilta que je vous ai déjà ramené, d'accord, qui vous dit que, on avait dit, il y a trois opinions, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva et Rabbi Nathan, sur le nombre de gens dans Erev Rav. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première opinion, c'est de Rabbi Ishmael, c'est de dire qu'ils étaient 1,2 million. Rabbi Akiva dit ils étaient 2,4 millions. Et Rabbi Nathan dit ils étaient 3,6 millions. Bon, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour voir que c'est chaque fois des multiples de 600 000. Oui. Donc c'est deux fois, quatre fois ou six fois ce nombre de gens. Donc, ils étaient plus nombreux que les Bnei Israël, d'après les trois chitotes. Plus nombreux. C'est très étrange. Accepter pour un peuple qui est en voie de construction d'être minoritaire parmi des étrangers, avec un lourd passé, une lourde tradition idolâtre. C'est vrai que les Bnei Israël, à ce moment-là, étaient aussi idolâtres, mais ils étaient idolâtres, influencés par les maîtres. Ils étaient esclaves de maîtres qui étaient idolâtres, et dans un pays qui était idolâtre, ils ont été influencés. Mais les Égyptiens, ils étaient libres, ils ont choisi d'être idolâtres. Et donc, c'est quoi cette histoire? Même la chita de Rabbi Ishmael, ça veut dire qu'il y avait deux fois plus d'étrangers que d'autochtones, si on peut parler comme ça, que d'hébreux. C'est incompréhensible. Donc, il y a ce problème-là. C'est presque insoluble. Hein. J'ai cherché en regardant à peu près tout ce qu'on a comme documentation là-dessus. Il y a des outils de recherche pour ça. Personne ne dit quelque chose de très clair là-dessus. Mais la question, elle est posée par plein de gens. Ensuite, il y a des questions. Quand les Bnei Israël ont franchi la mer, la tradition, elle est que la mer ne s'est pas ouverte une seule fois. Elle s'est ouverte en 12 canaux. Il y avait un canal par tribu. Donc chaque tribu a passé par son canal. Par où ils ont passé les Égyptiens? Il n'y avait pas de canal pour eux. Comment ils ont franchi la mer? Ensuite, dans toutes les situations, le Erev Rav lui-même, il n'était pas protégé par les nuées de gloire. Il n'avait pas le bénéfice. La manne, pour eux, ça avait le même goût de, l'espèce de goût huileux. Ça n'avait pas le goût qu'on voulait, pour, comme pour les Bnei Israël. On comprend qu'après, ils ont dit, on a marre de ce espèce de pain insupportable. Ensuite, quand on a partagé Eretz Israël, on l'a partagé selon les tribus. Où ils étaient, les gens? Et alors, deux, 1,2 million, 2,4 millions ou 3,6 millions d'étrangers, là, ça passe pas complètement inaperçu. Où ils étaient, ces gens-là? À tout ça, on n'a pas de réponse. La plupart des gens qui essayent de donner une réponse, ils expliquent qu'ils sont morts. Certains disent qu'ils sont morts avant d'entrer en Eretz Israël. Donc, excite la question de savoir où ils étaient quand on a partagé Eretz Israël. D'autres disent qu'ils sont morts tout de suite après la mer. Bon, résoudre le problème en disant qu'ils sont morts, c'est une possibilité. Mais il n'y a aucune preuve, la Torah ne nous dit rien de tout ça. C'est étonnant que la Torah ne nous dise rien de tout ça. C'est quand même important de savoir si tous les rêves raves, s'il y a 1,2 million, 2,4 millions ou 3,6 millions de personnes qui meurent, même si c'est des rêves raves, c'est quand même quelque chose qui passe pas inaperçu. La Torah, elle devrait quand même nous en dire un mot. Je vous avais dit, comme ça, c'est comme, bon. J'ai un élément pour essayer d'expliquer, mais je sais expliquer d'après ça seulement la Chita de Rabbi Akiva, la Chita de 2,4 millions. Mais il y a des endroits où on ne ramène que la Chita de Rabbi Akiva. Si on pense que c'est la Chita de Rabbi Akiva, ils étaient effectivement 2,4 millions. Alors, on peut essayer d'expliquer la chose de la manière suivante. Comme vous savez, c'est marqué dans la Torah, Chamushim alou bnei Israël mimitzrayim. Les bnei Israël sont sortis, et une explication du mot Chamushim qui veut dire armée, en fait, c'est la racine Chamesh, 5, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'un cinquième des gens qui étaient d'accord de sortir d'Égypte. Il fallait être un peu fou pour envisager que tout un peuple sorte de Mitzrayim, où ils vont aller, en dehors de l'Égypte, de la vallée du Nil, vous avez le désert. Donc, on peut vivre dans le désert si on est une tribu habituée, etc. Mais des gens qui n'ont pas du tout d'habitude, leur expérience de vie dans le désert, elle n'est pas très longue. Donc, 4/5 du peuple a dit on n'est pas d'accord de sortir. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors, dans le texte, évidemment, on ne nous dit rien de tout ça, mais il y a des midrashim qui disent que ils sont morts pendant la plaie de Rochère, pendant les ténèbres. Et ils sont morts et enterrés. Ça, bon, ça c'est un midrash qui est assez difficile parce que c'est difficile d'imaginer que Paro s'est pas aperçu qui manquait 2,4 millions personnes. Et qu'il n'y avait pas de tombe, ni rien du tout. Parce que s'il y avait des tombes, on aurait su qu'Hachem les a tués. Même si c'est Hachem qui les a tués, c'est un échec gigantesque d'Hachem. S'il a proposé la liberté, il y a 20% qui ont accepté et 80% qui ont dit non. Non, merci. Mais évidemment, vous avez compris tout seul que si on pense qu'ils étaient 2,4 millions, c'est-à-dire 4 fois autant que les Bnei Israël, eh bien, ces fameux Égyptiens, ce fameux Erev Rav, c'était le même nombre de personnes que le nombre de Bnei Israël qui ne sont pas sortis d'Égypte. 4/5. 4/5, si un cinquième c'est 600 000, 4/5 c'est bien 2 millions 4. Alors, ce que j'ai pensé, mais j'ai aucune source, donc c'est du rêve absolu, quoi, simplement, comme il est déjà tard et que, bon, on peut profiter de dire des choses. C'est clair, je pense que ce rêve rave, en vérité, c'est des Égyptiens, mais en fait, ce sont des Bnei Israël. Parce que les Bnei Israël à cette époque-là, c'était les Égyptiens. Ils étaient complètement assimilés. Ils étaient Égyptiens depuis de nombreuses années, depuis plusieurs générations. Donc on peut dire Égyptiens, dans la mesure où la différence qu'il y avait entre les Bnei Israël et les Égyptiens, elle était très faible à ce moment-là. Les Bnei Israël n'avaient pas encore de mitzvot qui les obligeaient. On est avant d'avoir reçu la Torah. Alors ces gens-là, vous ne voulez pas sortir. Alors ça, on a déjà vu dans le Chumash, dans le Shiur de Chumash, que quand la Torah elle nous parle, et là c'est pas la Torah qui en parle, c'est le Midrash, mais quand Chazal en parle, y compris dans la Torah d'ailleurs, quand on parle de mort, c'est pas obligatoirement une mort physique. On peut être mort spirituellement, économiquement, socialement. Un Metzora, par exemple, celui qui est frappé de cette forme de lèpre, enfin, qui n'est pas la maladie, mais qui est la lèpre de la Torah. Il est renvoyé de tous les camps. Lui, il est socialement mort. Il ne peut pas parler avec qui que ce soit. Un aveugle, d'une certaine manière, il est mort sur certaines choses. Quand Eliphaz, le fils de Sav, a rattrapé Yaakov sur l'ordre de son père, Esav. Avec cet ordre, c'était de tuer Yaakov. Quand il est arrivé à la hauteur de Yaakov, Yaakov lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors il lui a dit, je suis venu te tuer. Bon, Yaakov, il l'a pas discuté avec lui. Il s'est pas battu avec lui. Il savait que, il discute pas tellement avec Esav, Esav c'était une tête. Donc il a dit à Eliphaz, dépouille-moi, tu me rends économiquement mort, tu pourras dire à ton père que tu m'as tué. On voit nulle part que Esav a fait un reproche à Eliphaz. Il n'y a pas de midrash là-dessus qui dise qu'il a fait un reproche. Il a très bien compris. Ouais, bon. On voit très bien les conséquences. Quand Yaakov arrive chez Laban, il n'a pas un sou. Et ça entraîne toutes sortes de choses. Tout le bouleversement de les deux femmes, etc. Tout ça, c'est la suite du fait que Yaakov n'a pas un sou. Il était économiquement mort quand il est arrivé chez Laban. Donc on peut très bien penser que même le Midrash qui dit qu'ils sont morts et enterrés, c'est une façon de dire il n'y a pas de trace d'eux. Spirituellement, ils sont morts. Pourquoi? Ils ne voulaient pas sortir, donc spirituellement, ils étaient morts. Ils allaient devenir idolâtres égyptiens, point barre. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Paro a vu que, parce que il avait refusé de signer ça a continué, l'épidémie, alors Paro, il s'est mis en colère, il a viré tous les Juifs, en fait. Les Hébreux, il a probablement viré aussi ceux qui voulaient rester. Je veux plus voir un Juif ici dans ce pays, puisque vous apportez la mort dans le pays. Tant que vous êtes là, ça meurt. Donc, il a viré tout le monde. Donc, il a viré aussi ceux qui voulaient rester, mais ils se sont fait expulser. Et c'est eux les rêves raves. Eux, ils sont vraiment raves. Ils étaient 4 fois plus importants. 4 fois plus nombreux que les Bnei Israël. Et eux, ils ne voulaient pas de suivre Hachem, mais ils n'ont pas eu le choix. Et eux, il n'y a pas de problème. Ils appartenaient tous à une tribu. Donc, quand la mer s'est fendue, ben, ils sont sortis comme tout le monde, avec les gens de leur tribu. Peut-être qu'eux, ils aient marché derrière, ou je sais pas, de côté, ils voulaient pas marcher avec les autres, peut-être. Mais petit à petit, ils se sont peut-être assimilés. C'est pour ça qu'on parle pas d'eux. Au bout d'un moment, ils se sont... parce que bon, ils, de facto, à leur corps défendant, ils ont été considérés comme juifs. Pendant la guerre, il y a plein de gens qui pensaient que ils s'étaient ou convertis ou n'importe quoi, mais Adolphe, il a décidé autrement et il a viré, il a considéré que c'était les Juifs quand même. Alors eux, ils sont allés effectivement dans les camps de concentration sans savoir ce qui leur arrivait. Parce qu'ils avaient fait tout ce qu'il fallait pour ne pas être considérés comme Juifs. Mais ça n'a pas marché. Et là aussi, il y avait des gens qui ne voulaient pas en participer. Mais ça n'a pas marché, ils ont été virés par Paro. Et à ce moment-là, toutes les questions s'en vont. Pourquoi étaient plus nombreux, etc. Alors, mais c'est paradoxal parce que ça veut dire quand même que les Bnei Israël qui sont sortis de Mitzrayim, c'était une minorité, enfin, dans tous les Juifs, les Hébreux qui sont sortis, il y avait une minorité de gens à qui, aux valeurs de ce qui allait être. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont reçu la Torah, etc. Peut-être qu'ils ont dit, non, ça ne nous concerne pas, on n'en veut rien, on veut pas. Et c'est eux qui sans arrêt disent, on va retourner en Égypte, c'est trop compliqué, on n'a pas à boire, on n'a pas à manger, on va retourner en Égypte. Effectivement, mais ils n'auraient pas été du tout acceptés en Égypte, si ça se trouve. Ou bien pas, j'en sais rien. Donc on pourrait, si vous voulez. Modulo, c'est ces petits changements, comprendre la Shita de Rabbi Akiva. Mais avec ça, je ne sais pas expliquer les deux autres Shitot, le 1 million 2 et 3 millions 6, je ne sais pas les expliquer. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça ne correspond à rien du tout. Mais est-ce que c'est simplement une façon de noyer le poisson? Parce que c'est une Agada, donc... Razal ne veulent pas toujours dire les choses aussi clairement et peut-être s'est présenté de cette manière-là pour essayer de brouiller un peu les pistes. Ou bien il y a d'autres choses que je n'ai pas comprises qui expliqueraient la Shita de 1-2 et la Shita de 3-6. Mais la Shita intéressante, c'est celle de Rabbi Akiva, et celle-là, elle marche parfaitement bien. Sauf que personne ne dit comme moi. Donc, faut prendre ça avec les pincettes d'usage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On est jeudi.